Bonjour à toutes, Serge Bounic du groupe Tislet de l'Académie d'Orléans-Tours. J'ai le grand plaisir de vous inviter à écouter notre 17e émission des souris et des lettres. Celle-ci est parrainée par Madame Pinsard, IPR de lettres, et pilotée par Philippe Godiveau. Vous pourrez également entendre les interventions d'Angélique Voisin, de Christelle Delasse, de Clément Bigot, de Karine Lanista et de Marie Pourriot. À la technique se trouve aujourd'hui notre spécialiste, Baptiste Voisin, qui se charge de l'enregistrement dans ce studio du CRDP d'Orléans que nous remercions pour son accueil. Après une première émission consacrée cette année à la poésie, nous avons décidé de quitter les émotions pour la réflexion, en nous demandant comment, en tant que professeur de français, nous pourrions mieux valoriser les pratiques de l'argumentation. La tradition occidentale nous rappelle qu'à ses origines antiques, l'argumentation avait pour fonction principale de soutenir les discours juridiques, politiques et philosophiques. Sans doute qu'à notre époque, certains questionnements ont évolué. Pourtant, l'objectif fondamental reste le même. Proposer une réflexion élaborée de façon à emporter l'adhésion de son destinataire. Cette pratique argumentative n'est pas réservée au monde des adultes et, si l'on espère qu'elle prenne plus de consistance et de rigueur avec l'âge, il convient de lui accorder une place très importante dès les années des formations des jeunes qui nous sont confiés. C'est précisément ce qu'Angélique, notre experte de l'argumentation, va nous montrer dans son édito.
Chers amis auditeurs, pour la plupart enseignants, vous avez été, comme moi, récemment consultés pour l'évolution du socle commun. Un élément a particulièrement retenu mon attention dans le projet proposé, la mise en avant de l'argumentation. Celle-ci apparaît en effet dans trois des domaines, ce qui confirme que l'argumentation est au cœur de l'enseignement actuellement, parce qu'elle participe à expliciter des choix de façon consciente, en prenant en compte un destinataire précis. Enseigner l'argumentation, c'est à mon sens permettre à l'élève de dépasser une stratégie de persuasion assez individuelle pour s'ouvrir sur les autres et sur le monde, c'est-à-dire lui permettre de devenir citoyen. Je m'explique. Nous pouvons distinguer deux formes principales d'argumentation. La première, la persuasion que les élèves maîtrisent de façon experte, relève de l'affectif, de la sensibilité et peut se rapprocher de la manipulation dans la mesure où elle se soucie essentiellement d'efficacité. Même si elle lui est souvent attachée, elle est donc à distinguer de l'argumentation à proprement dite, qui vise quant à elle la recherche d'une vérité relative et se situe sur le plan des idées. Si je regarde les situations naturelles de la vie quotidienne, je m'aperçois vite que mes élèves sont totalement imprégnés de cette stratégie de persuasion. Ils se positionnent vite, de façon intuitive et affective sur un sujet proposé, mais peinent à se justifier et à argumenter leur point de vue. De façon claire, ils ont pris l'habitude de liker les sujets proposés sans aller plus loin. Alors, précision de vocabulaire. Liker, selon le Wiktionnaire, consiste sur Internet à dire qu'on aime un site ou quelque chose en cliquant sur un bouton symbolisant l'expression « I like ». À son lancement, ce widget, mini-logiciel, était présenté comme un outil pour partager facilement sur sa page Facebook les sites que l'on apprécie. Sauf que cela permet à Facebook de savoir par quel site ses membres sont passés une fois qu'ils ont liké. Plus les produits sont likés et plus ils sont mis en avant, de même que leurs likers. Aucune recherche de vérité ni de valeur morale ici. La fréquence prend le pas sur l'argument. Et cela fonctionne. J'aurais également pu prendre comme exemple les médias qui influencent notre façon de penser avant même de prendre connaissance par nous-mêmes d'un sujet, qui va tout simplement voir un film sans avoir vu, lu ou entendu les critiques le concernant. Alors, ce n'est pas en soi négatif si on a conscience des motivations de nos choix, c'est-à-dire si on fait preuve d'esprit critique. Mais il faut poser certaines limites. Primo Levi considérait ainsi qu'il faut nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que celles de la raison. Or, seule une culture de l'argumentation peut justement permettre une réelle prise de conscience des stratégies employées, de les dépasser, pour former son propre jugement et par là même devenir capable d'en débattre. Mais je vous laisse la parole, à vous d'en débattre.
Les souris et les lettres. Comme vous le voyez, chers auditeurs des Souliers et des Lettres, Angélique nous met d'emblée sous pression. Et elle n'a pas tort, car il paraît bien difficile pour un adolescent de passer de la formulation d'une opinion à celle d'un jugement personnel, comme vont le montrer Clément et Christelle dans la rubrique du sujet du jour. Certes, l'argumentation intervient parfois de façon très précoce chez nos élèves. Il suffit de les observer lorsque certains viennent négocier, après la remise d'un devoir, une augmentation de leurs notes. En guise de boutade, on pourrait dire qu'ils font de l'argumentation sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Mais la compréhension réelle des ressorts de l'argumentation et la capacité à analyser celle-ci dans le discours d'autrui leur paraît très difficile. Or, ce sont les enjeux majeurs de leur apprentissage en cours de français. N'est-ce pas, Christelle ?
Oui, Serge. C'est un vrai problème de constater que nos élèves, qu'ils soient au collège et même au lycée, se complaisent à demeurer le plus souvent dans l'opinion commune, dans les préjugés, et cela sans en avoir la moindre conscience. L'enchaînement logique, tel que Christian Plantin l'a mis en évidence dans les essais sur l'argumentation, c'est-à-dire pour aller très vite, une assertion soutenue ou non par une loi permettant la réfutation, leur est complètement inconnu. Or, l'enjeu de l'école est bien de construire des citoyens avertis, capables d'exprimer un jugement personnel et de discerner le désir de convaincre chez leurs interlocuteurs. Comme Angélique nous l'a rappelé, le nouveau socle y laisse une grande part. Je voudrais citer le propos d'Alain Boissineau, qui souligne bien cet ancrage de l'argumentation dans la vie. En effet, je cite, « L'argumentation est liée à une vision contradictoire du réel. Elle est la forme verbale du duel, ce qui détermine sa nature dialogique. » L'argumentation induit donc bien l'altérité et la place de l'enseignement des ressorts de l'argumentation est indispensable à l'école.
Mais maintenant se pose la question de savoir comment mettre en œuvre ces principes au collège comme au lycée. Et quelle est la plus-value des TIS dans cette formation ? Qu'en penses-tu, Clément ?
Alors, pour ma part, Serge, je propose un moyen qui me semble trop peu usité, aussi bien au collège qu'en lycée, pour travailler l'argumentation. Il s'agit de l'orientation. Si j'ose dire, on fait ainsi d'une pierre deux coups. Il me semble que cette activité est abordable depuis la classe de 3e jusqu'au supérieur dans le cadre de ce qu'on appelle alors le projet personnel et professionnel. Et puis, bien sûr, au lycée, on peut mettre en œuvre cette activité par l'intermédiaire de l'AP. Alors, d'abord, on demande aux élèves de choisir un métier, puis on les fait argumenter a priori sur le choix retenu. Pourquoi avoir choisi ce métier plutôt qu'un autre ? Quels sont ses avantages, ses inconvénients ? Quelles sont mes attentes personnelles ? Ensuite, on fait de la recherche documentaire, via, par exemple, les sites de l'ONICEP, de l'APEC, des fédérations de métiers. On travaille ainsi l'esprit de synthèse, on copie-colle, et au passage, je dis entre parenthèses que le copier-coller n'est pas forcément l'antithèse de la réflexion. Et puis on synthétise. C'est facile à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. On travaille également le regard critique au sujet des sites web. L'information est-elle d'actualité ? Qui l'a rédigée ? Etc. Troisième étape, on demande aux élèves de réaliser un discours argumenté, dont le contenu sera renforcé par les deux étapes précédentes, puisque l'élève sait ce qu'il ignorait, ce qu'il croyait savoir, et il est conscient de ce qu'il sait maintenant. Il va donc pouvoir défendre son choix personnel en se débarrassant de ses a priori. Pour cela, il est facile d'utiliser le traitement de texte. Par exemple, on peut utiliser la fonction surlignée qui met ainsi en valeur les connecteurs logiques et qui sont les éléments clés de la démonstration. Enfin, dernière étape, ce discours peut être exprimé de manière multiple, à l'oral, sous forme de PowerPoint, de poster, de prési, à l'écrit. On pourra lier texte, musique et images et ce sera ainsi l'occasion de faire réfléchir les élèves au sujet du lien existant entre fond et forme. Ce discours personnel pourra même être poursuivi d'un débat en groupe, puisque certains métiers susciteront de fait des réactions parfois vives.
Et en dehors de ces exemples de mise en œuvre traités par Clément, on peut également envisager d'autres possibilités. Soit, premièrement, on ne fait entendre qu'une voix, celle de celui qui démontre, qui cherche à convaincre. Par exemple, dans le cas du travail préparatoire d'un texte argumentatif. Et là, nous pouvons utiliser la carte heuristique. Nous en avons d'ailleurs parlé dans d'autres émissions. Les TIS servent à montrer la pensée en formation et c'est très utile comme brouillon. Autre possibilité, cette fois non pas dans la production d'un texte argumentatif, mais dans l'analyse, lors du travail notamment sur la presse. Les élèves peuvent rechercher l'expression d'un point de vue et cette fois-ci les TIS sont support d'études, par exemple en étudiant des sites de journaux en ligne. On peut même utiliser au collège comme au lycée le site Gorafi, qui est un anagramme de Figaro, qui publie de fausses nouvelles et cherche à convaincre son lecteur de la véracité des informations délivrées. Nous renvoyons d'ailleurs nos auditeurs à un scénario qui est sur le site académique, qui est intitulé « Lecture critique ». D'autre part, dans la pratique de l'oral argumentatif, on peut faire comprendre aux élèves que l'adhésion d'un auditoire est à la fois emportée par la qualité des arguments, mais aussi par la force de son propos. C'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire à ce micro. Par exemple, lors du travail sur un enregistrement, on peut souligner, alors enregistrement vidéo, on peut souligner la place du corps, la praxis, dans la faculté de convaincre son interlocuteur, ou si nous étudions juste un enregistrement audio, on peut cette fois-ci travailler sur la voix, l'intonation. On peut alors utiliser, par exemple, un outil sur la plateforme de cours en ligne qui s'appelle Poodle. Et là encore, nous renvoyons nos auditeurs à un scénario qui développera cette proposition de travail sur le site de l'Académie d'Orléans-Tours. Dernière proposition, cette fois, non pas d'entraîner les élèves sur un seul propos, un seul discours, mais cette fois-ci au duel argumentatif pour reprendre les propos d'Alain Boissineau. Et cette fois, on utilisera à bon escient, avec profit, le wiki pour préparer un débat et sortir de l'idée que finalement un débat est un affrontement de personnes. Par exemple, sur un sujet donné, les élèves, comme sur un forum, proposent leurs arguments, réagissent à ceux d'autrui, et le wiki est une sorte de brouillon à l'écrit de l'échange oral qu'ils préparent. On voit donc pour conclure que les TIS sont un outil formidable pour pratiquer l'argumentation.
Les souris.
Christelle vient de conclure son intervention par une affirmation particulièrement élogieuse portant sur l'utilisation des TIS dans l'enseignement de l'argumentation. Pourtant, cette vision n'est pas forcément partagée par tous les collègues qui nous écoutent aujourd'hui. Un débat agite souvent les salles des professeurs à ce sujet. Eh bien, Philippe, dans sa rubrique des notes de lecture, va nous proposer de quitter les passions pour la raison, de laisser les polémiques stériles et enflammées pour clarifier ce fameux débat à l'aide d'un ouvrage qu'il a sélectionné pour sa rigueur et une forme de lucidité sans concession. Ce livre porte pour titre « Le numérique, une chance pour l'école » de Joël Boissière, Simon Fraud et Francesque Pedro. Il a été édité en novembre 2013 chez Armand Collin.
Effectivement, Serge, le livre que je présente aujourd'hui se démarque par le regard qu'il porte sur les TIS. Une vision qui ne se veut ni idyllique, ni pessimiste, mais un état des lieux sur le déploiement des technologies et surtout sur les pratiques en œuvre, aussi bien en France qu'à l'étranger. Le numérique, une chance pour l'école, aux éditions Armand Collin, se veut donc une analyse objective de la place et des enjeux du numérique du primaire à l'université. Rien n'est oublié sur le plan pédagogique et sur l'ensemble des pratiques recensées. De la baladodiffusion aux tablettes tactiles, du TBI au Serious Game, toutes les pratiques sont analysées. Cet ouvrage répond à un plan en trois parties. La première, intitulée « L'éducation passe au numérique », tente d'évaluer la pertinence du recours aux TIS dans les établissements et surtout de décrire les conditions de plus-value réelles. À cette occasion, les auteurs mettent à mal le mythe des digital natives, ces élèves censés avoir une connaissance intuitive, innée du numérique, pour développer davantage autour du terme de l'efficience du travail des élèves avec ce même numérique. Ainsi, Joël Boissière, Simon Faux et Francesc Pedro en profitent pour établir une distinction importante entre la culture numérique personnelle des élèves, qui repose sur des outils clairement identifiés, et sur la culture scolaire du numérique, avec ses propres logiciels, ses propres objectifs, qui ne sont bien évidemment pas les mêmes. La deuxième partie porte un titre évocateur, « Maîtriser ou subir l'environnement numérique des élèves ». On y dresse un panorama complet des aspects à la fois technologiques et pédagogiques du numérique au sein de l'école. Un rappel est fait sur l'interaction nécessaire entre contenu, service, équipement, infrastructure et accompagnement humain. Cela a le mérite de replacer chacun face à ses responsabilités sans faire supporter le poids de la réussite ou de l'échec au seul enseignant. On y reprécise le rôle de chacun dans la communauté numérique, dans le cadre des différentes politiques éducatives, non sans adjoindre à cette analyse des propositions pour améliorer leur efficacité sur le terrain. Le troisième et dernier chapitre envisage l'avenir du numérique. D'emblée, il réfute l'idée d'une course effrénée vers la nouveauté où le numérique scolaire poursuivrait sans relâche les pratiques individuelles des élèves. Ici, les auteurs défendent davantage l'idée d'une éducation aux médias numériques, ou pour faire écho à l'une des recommandations du Conseil national du numérique, une définition claire de ce que l'on appelle les humanités numériques. Vous l'avez compris, chers auditeurs, le numérique, une chance pour l'école, n'est pas un titre galvaudé. L'analyse se veut objective, sans langue de bois, pour témoigner des enjeux du numérique pour une école qui doit encore, à l'heure actuelle, s'en emparer, mais surtout prendre conscience, avec les élèves, des modifications induites par les TIS dans le rapport au savoir. Je rappelle pour finir ce titre, « Le numérique, une chance pour l'école » de Joël Boissière, Simon Fao, Francesque Pedro, aux éditions Armand Collin. Bonne lecture à toutes et tous.
Les souris et les lettres.
À plusieurs reprises dans nos émissions des souris et des lettres, nous avons mentionné l'existence de certains outils numériques prometteurs, souvent utilisés dans la formation continue des adultes. Je veux parler des jeux sérieux. Certains d'entre eux commencent à être conçus pour un public d'adolescents et intégrés à une pédagogie valorisant l'autonomie et la responsabilité, ils peuvent prendre place dans une formation efficace dispensée en collège ou en lycée. Pour vous convaincre du bien fondé de leur usage, Karine nous propose aujourd'hui dans sa rubrique « Ils n'apprennent plus comme avant » de découvrir l'un de ces jeux sérieux ou « serious games » qui peut permettre de faire réfléchir les adolescents aux pratiques de l'argumentation. Le jeu sérieux s'intitule 2025 Ex Machina. De quoi s'agit-il donc, Karine ?
Alors, 2025 Ex Machina, c'est un jeu sérieux en ligne à visée pédagogique. Il s'agit de responsabiliser les adolescents de façon active au danger de la toile par le principe de l'immersion. En effet, ce jeu sérieux, à travers 4 épisodes centrés autour des réseaux sociaux et des blogs, des chats et forums, des jeux vidéo et enfin de l'utilisation d'Internet mobile avec le téléphone portable notamment, invite le joueur à faire des choix qui vont modifier la vie d'un personnage dont l'attitude irresponsable ou inconsciente aura mis en péril son devenir. Derrière la dimension narrative et informative apparaît une vraie dimension argumentative. En effet, à l'issue du jeu, un bilan est fait pour indiquer les conséquences des choix qui ont été effectués par le joueur, ainsi que des conseils à mettre immédiatement en pratique, comme par exemple le paramétrage de son compte Facebook. Chaque épisode est associé à une fiche d'exploitation pédagogique, appelée fiche atelier. Toutes contiennent une rubrique « Analyser, débattre d'une part, produire, s'engager d'autre part ». La première offre une série de questions sur ce qui pose problème face à la situation rencontrée dans le jeu. La seconde invite à donner des conseils et des recommandations aux internautes, aux institutions et aux éditeurs de services. Ce rapport à produire de façon synthétique pourrait être publié en ligne et évalué par les internautes. Cette dimension concrète et visible publiquement du travail effectué peut donc être une source de valorisation pour l'élève. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche pédagogique de ce jeu, c'est le fait qu'il puisse être joué individuellement, en petits groupes ou collectivement par le biais d'un tableau numérique. Idéalement, la mise en place d'une phase individuelle ou en binôme permet une première prise de conscience, incitant à la réflexion. Une seconde phase, en petits groupes ou de façon collective, invite à l'interaction et à la construction de nouvelles représentations à travers le débat. Et enfin, la phase de production opère un retour réflexif sur ce qu'il faut assimiler. Il est alors tout à fait possible d'imaginer pour l'enseignant un écrit argumentatif individuel à l'issue de ce travail. La réflexion de l'élève aura été nourrie par l'état des lieux, donc le jeu, la problématique, le débat, et la prise de position, produire et s'engager.
Les souris et les lettres.
Karine, s'il y a un événement historique qui est symbolique de l'engagement, et plus précisément de l'engagement des écrivains, c'est bien l'affaire Dreyfus. Comment oublier que certains, comme Barrès et Maurras, ont ajouté leur voix à la haine antisémite qui animait les anti-Dreyfusards ? Et comment oublier aussi que des auteurs si différents que Peggy ou Zola ont contribué chacun à sa façon à la victoire de la vérité et de la réhabilitation d'un innocent injustement condamné ? Marie, tu as voulu prolonger cette étude souvent menée en cours d'histoire pour travailler sur l'argumentation en collège. Dans le cadre de la rubrique du site du jour, tu vas nous expliquer comment tu as résolu le problème de l'abondance des ressources fournies par Internet sur un tel sujet.
Oui, en effet, Serge. J'avais donc choisi l'affaire Dreyfus, un événement historique que les élèves avaient déjà étudié en quatrième en histoire. Alors, cette affaire ayant suscité tellement d'écrits et de réactions qu'Internet fourmille de ressources à ce sujet. Il semblait donc difficile pour mes élèves d'être complètement autonomes. Alors j'ai décidé de les guider dans le moteur de recherche de Gallica, une ressource sûre et efficace. Il suffit de taper « Affaire Dreyfus » dans ce moteur de recherche et de découvrir ainsi 5807 résultats. Tout l'intérêt réside dans la multiplicité des documents et surtout dans l'approche disciplinaire qui s'en dégage. Je constate d'emblée avec ma classe que l'on trouvera 8 manuscrits, par exemple le manuscrit du procès de Zola, ou encore le brouillon de la lettre de Zola adressée à Félix Faure. 20 images, 2163 revues, 3616 livres. Le professeur a ainsi tout le loisir de développer l'apprentissage des divers genres de documents et de lier tout cela à un travail avec le professeur d'histoire. Enfin, pour amorcer le travail de l'argumentation, et notamment le domaine de la réfutation, j'ai proposé à mes élèves de découvrir les divers intellectuels qui ont entouré cette affaire. Les anti-Dreyfusards, comme Édouard Drummond, Maurice Barrès, qui apparaissent dans la liste des auteurs recensés dans Gallica, ou les Dreyfusards, comme Yves Guyot, Laurent Taillade. Les ouvrages mis à disposition en ligne permettent aux professeurs de montrer aux élèves les discours, les écrits qu'ont pu engendrer une telle affaire, argumentant dans un sens, puis dans l'autre, accusant ou défendant. Enfin, pour terminer, et parce que cette ressource mérite d'être citée lorsqu'on n'a pas la possibilité d'emmener les élèves voir les ouvrages ou les manuscrits sur place, grâce à Gallica, j'ai aussi fait découvrir à mes élèves les courriers d'Alfred Dreyfus, lui-même adressés à sa femme.
Les souris et les lettres.
Grâce à Marie, nous terminons, chers auditeurs, cette émission portant sur l'argumentation, sur une note d'espoir, celle que la vérité et la raison humaine l'emportent sur l'injustice et la haine de l'autre. Vous pouvez réécouter cette contribution ainsi que celle de l'ensemble de l'équipe des souris et des lettres sur le site de l'Académie d'Orléans-Tours. Vous pouvez également approfondir certains thèmes grâce aux bonus fournis et même nous retrouver sur notre site Facebook. Car c'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons et nous vous disons donc à très bientôt sur la web radio.